Oui, et nous allons nous intéresser à la radio lors de l'entre-deux-guerres. Vous savez, cette période de repos, de folie et de décadence entre 1919 et 1939.
Agora Côte d'Azur. Reportage.
Les années 20 et 30, c'est la fin de la guerre, la joie de vivre, mais également les peurs enfouies qui ne quittent personne. Et pour illustrer cette peur, je vous évoque la fois où Orson Welles, célèbre réalisateur, a diffusé une pièce radiophonique inspirée du roman « La guerre des mondes » de Welles. Le soir d'Halloween 1938, il annonce une pluie de météorites au Canada et une invasion extraterrestre aux États-Unis. Et beaucoup d'auditeurs y ont cru. Il faut dire qu'Orson Welles s'était appliqué à créer un bulletin météo et plusieurs flash infos. En tout cas, grâce à ce canular, notre réalisateur a vu sa cote de popularité monter en flèche à Hollywood et ça lui a permis de lancer sa carrière. Alors merci Halloween. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le public s'approprie peu à peu la TSF. Le poste de radio devient un objet courant autour duquel la famille se réunit. Il trône dans le salon, passionne les publicitaires et même les écrivains s'en emparent et les incorporent dans leurs écrits. Au début, seuls les bulletins météorologiques et d'informations sont diffusés. Mais vers 1921, la programmation s'enrichit de voix et d'émissions musicales. La TSF se transforme en radio. En 1923, la couverture de l'illustration souligne les progrès et l'évolution des postes de radio. Radio Tour Eiffel diffuse son tout premier programme en décembre 1921. L'État décide de développer les radios publiques tout en laissant libre cours à la création de radios privées. Plusieurs stations se multiplient donc rapidement. Des stations publiques, radios d'État telles que Lyon-la-Doua ou Radio PTT, mais également des privées comme Radio La ou Le Petit Parisien. Radio La est d'ailleurs la première radio privée créée par la Société française radioélectrique en 1922.
Geneviève vient de s'habiller. Elle rejoint son mari qui l'attend.
Tu es prêt? Mais tu as une tête de déterré, mon pauvre chou. Tu ne peux pas sortir comme ça. Mets-toi dans un peu de rouge, au moins.
Mais quand je me flatte, cela me donne les yeux creux. J'ai encore plus mauvaise mine.
Mais il faut te soigner, nom d'une pipe. Commence dans ce soir même une cure de pilules pain.
En effet, seules les pilules pain que fournissent à votre sang l'oxygène dont il a un si grand besoin. Vous serez tout ragaillardi quand ce flot d'oxygène, véritable porteur de vie, coulera dans vos veines.
Des émissions musicales de gramophones sont mises en place, des concerts, des conférences à la Sorbonne, les premiers animateurs, des pièces de théâtre et les premiers journaux parlés. Très tôt, des vedettes du music-hall, du monde du théâtre, cinéma ou vie littéraire sont invitées sur des plateaux radiophoniques pour des interviews et émissions exceptionnelles, à la manière d'Anna de Noailles, invitée dans la chronique poétique de Radio La en 1922, chronique à laquelle a participé Jean Cocteau l'année suivante.
J'écris pour que le jour où je ne serai plus, on sache comme l'air et le plaisir n'est plus. Et que mon livre sorte à la foule future, comme j'aime la vie de l'heureuse nature.
Pour ce qui est de notre Côte d'Azur, des radios privées s'y développent dès le début des années 20. Radio Riviera, basée à Nice, Radio Cannes ou Radio Côte d'Azur. Des radios d'État y ont également fleuri, comme Marseille-Provence en 1925 ou Nice-Côte d'Azur en 1936. La radio devient un outil d'information, de divertissement, mais également un instrument de propagande pour les politiciens et dictateurs en devenir, surtout sous la Seconde Guerre mondiale.